Bonsoir et merci d'être dans cette salle pour nous écouter parler et surtout écouter évidemment nos auteurs parler de littérature et en particulier des questions de fin du monde, des questions d'inquiétude sur le monde, des questions d'écologie et des questions d'être humain parce que finalement c'est aussi ça qui nous passionne. Enfin, on verra, en tout cas certains d'entre nous, peut-être que parmi nous il y a d'authentiques misanthropes qui imagine même un monde sans êtres humains et où finalement, peut-être que c'est plus apaisant quand on y rend compte que des grands espaces, de la forêt, de la beauté et des animaux. Avec nous aujourd'hui, Didier Jamais, qui est co-auteur avec Fabrice Mottez de 2012, un livre qui n'est pas un film catastrophe, qui n'est pas un ouvrage catastrophe, qui est parti, mais je pense qu'il expliquera mieux que je ne le dirai, d'une réflexion sur, vous savez bien, pour être trop rapide, qu'il n'y aura pas d'imaginaire de 2013, puisque la fin du monde, c'est quelle date déjà
21 décembre
2012. Voilà, 21 décembre 2012.
C'est une mauvaise nouvelle.
Oui, ça, c'est un peu une mauvaise nouvelle, on commence par une mauvaise nouvelle. Le calendrier Maya, tout le monde le sait, le net l'annonce. Et en plus, des membres de ma famille ont une maison tout près du garage, donc c'est vraiment...
Vous serez sauvés, avec un peu de chance.
Voilà.
Si vous choisissez le lieu dans lequel passer les vacances de fin d'année, ça devrait bien se passer.
Voilà, c'est pour ça que je me suis rapproché de vos parents, c'était prudent. Donc, nous verrons, et en tout cas, si cette perspective sombre ne se révèle pas exacte, nous nous retrouverons dans ce cas-là en 2013, donc le mystère sera résolu, vous saurez s'il y aura des douzièmes imaginales le 21 décembre 2012 au soir. On abordera ensuite avec cet humour-là, qu'on trouve parfois dans le livre, et on abordera aussi, évidemment, la réflexion qui est sous-tendue, c'est à partir d'une réaction des lecteurs et du public, comment des scientifiques, journalistes scientifiques et scientifiques répondent en disant est-ce que la question de la fin du monde est une question sérieuse, que si oui, comment se pose-t-elle réellement, non pas chez les Mayas, mais dans le monde réel, les scientifiques, et puis dans ce cas-là, comment répondre à ces interrogations et ces inquiétudes. Jean-Pierre Andrevon, qui est parmi nous pour de très nombreux livres, mais en particulier Le Monde Enfin. Alors, on va dire qu'être écologiste aujourd'hui, c'est à la mode, ça peut même conduire au gouvernement, mais il fut un temps, et c'est sur ça qu'on rendra quand même hommage à Jean-Pierre Andrevon, il fut un temps où être un écrivain de science-fiction revendiqué comme écologiste attirait soit l'antipathie, soit les ricanements, voire les deux. Donc Jean-Pierre Andrevon, et on lui rendra hommage aujourd'hui à ce titre-là, est un des précurseurs, c'est-à-dire qu'il a lu, je crois, des gens comme René Dumont, qui est quand même quelqu'un d'important dans la réflexion écologiste en France, et que, avec toute une série de journaux et de militants, il s'est engagé, alors parfois peut-être à titre personnel, on n'y reviendra pas, mais en littérature avant tout, pour imprégner une partie importante de sa science-fiction, justement, de ces inquiétudes-là, de ces interrogations-là, 30 ou 40 ans, pour ne pas dire 50 ans, on ne va pas vieillir trop, mais en tout cas plusieurs dizaines d'années avant que le thème ne soit la mode, voire même porteur pour des carrières personnelles. Daniel Martinigol, vous êtes une jeune retraitée d'éducation nationale. Vous avez donc sévi de nombreuses années vis-à-vis de nos petites têtes blondes, sauf que vous avez même joué, comment on dit ça ? Vous savez, sévir de l'intérieur, vous êtes incrusté dans l'administration, vous êtes fait passer pour une honorable enseignante, et puis en réalité, vous étiez un agent de la subversion culturelle. Vous avez publié de nombreux ouvrages de science-fiction, dont en particulier L'Or Bleu, qui est un de vos succès, qui pose justement là aussi ces questions écologistes qui vous tiennent également à cœur et que vous avez essayé de faire passer dans vos romans en direction des jeunes. Et puis, last but not least, comme on dit, pour faire chic, ce qui n'est pas trop le ton imaginal, Philippe Mouche, qui est l'invité du Festival 2012, tout simplement parce que, excusez du peu, il a gagné le prix Une autre terre, 2012. C'est le seul prix qui n'est pas un prix de fantaisie décerné aux imaginales. Les prix imaginales des collégiens et des lycéens sont imaginaires. Tous les prix imaginales sont fantaisie, puisque c'est le cœur du festival. Mais là, en partenariat avec justement des partenaires privés, entre autres la société Energico, qu'on saluera, un prix a été créé avec un jury de spécialistes et d'amateurs éclairés pour décerner un prix qu'on va dire de science-fiction pour faire un raccourci, mais qui est un prix qui va à un écrivain et à un ouvrage qui abordait les questions d'aujourd'hui et de demain avec une écriture de qualité, avec une vraie problématique rigoureuse et sérieuse, et néanmoins une qualité fictionnelle que chacun lui reconnaîtra. Et donc, c'est La place aux autres de Philippe Mouche aux éditions Gaïa qui a été choisi cette année par le jury pour être le prix Une autre terre. C'est donc à ce titre qu'il est sur cette table ronde. Alors, place peut-être tout simplement aux auteurs. Jean-Pierre Andrevon, je vous citais pour dire que vous étiez un écologiste des débuts. Qu'est-ce qui vous a amené, il y a quelques dizaines d'années, quand vous avez commencé votre carrière littéraire, à vouloir, au travers de vos romans de science-fiction, brosser des situations, des personnages confrontés justement à une inquiétude qui, à l'époque productiviste dans laquelle nous étions jeunes, vous et moi, en gros, ça ne prêtait pas à conséquence, ces choses-là. Qu'est-ce qui vous a amené à vous interroger ces questions-là et à le transmettre en littérature ?
Plusieurs choses, de toute façon, deux choses en tout cas, dans mon expérience d'être humain, parce que avant d'être un auteur, avant d'être un écrivain, je suis un être humain, un passager provisoire de cette terre, et il se trouve que j'ai toujours aimé la nature, les arbres brassés par le vent, les petits oiseaux, les lapins courant dans les champs, les abeilles butinant, les fleurs, etc. Et puis, cet amour de la nature sans lequel on ne peut pas vivre. Il y a un très beau poème d'Apollinaire Schwepp dans ma maison. Un chat passant parmi les livres, des amis en toute saison, une femme ayant sa raison. Donc, cet amour de la nature menacée, dont on sentait la menace mais dès les années 60, hein, avec l'arrivée des autoroutes, traçant éventrant les champs, l'extension des villes, etc., la déforestation, ça existait déjà, même si on s'en rendait moins compte qu'aujourd'hui. Et alors ça, c'est l'expérience sensuelle, l'expérience vécue, l'expérience visuelle, souvent. Et puis les livres, les premiers livres qui sont arrivés, effectivement, fin des années 60, début des années 70. Vous avez parlé de René Dumont, moi je parlerai d'un livre fondateur qui était écrit par Barry Commoner, qui s'appelle « Nous n'avons aucune terre » et bien d'autres. Donc ils m'ont fait prendre conscience avec les chiffres, avec les faits, ce que je commençais à constater des visus. Et puis, à cette époque-là, j'avais commencé à écrire, après Barolinski, dans Charlie Mensuel. Et puis, il y a un type qui écrivait dans Charlie Mensuel, dans Saliedo, qui dessinait, surtout ce truc, qui s'appelait Pierre Fournier, qui avait décidé de créer une revue, la première revue écologique, qui s'appelait La Gueule Ouverte, qui a démarré en novembre 72, et qui a duré à peu près une dizaine d'années, avant de mourir de sa triste mort, parce que l'écologie, on ne voulait plus en entendre parler dans la grande période productiviste que sont les années 80. Alors j'ai intégré l'équipe comme ça, de la Gueule Ouverte, où je faisais quelques textes, mais surtout des dessins. Et puis voilà, puis j'ai continué à lire, et puis mon expérience d'homme, d'être humain, a continué à engranger toutes les menaces qui nous pesaient sur la figure, là, la pollution généralisée des mers, des forêts, l'effet de serre, la conscience de l'effet de serre venant bien après, on pourra en reparler peut-être. Et puis j'ai commencé à écrire aussi, moi ancien enseignant également, j'ai commencé à écrire, et chez moi l'écrivain et l'homme, l'humain, le citoyen, le passager de cette terre, c'est tout un, il n'y a pas de différence quoi. Quand je parle à quelqu'un, un ami, un homme un passager, un homme de rencontre, une femme de rencontre, c'est exactement la même chose que quand j'écris les premières lignes d'un roman ou d'une nouvelle. Je n'ai pas de casquette, je suis le même homme exactement, donc forcément, étant très inquiet, très concerné par le saccage progressif de la planète, bah j'ai écrit là-dessus, quoi, forcément. Ma première nouvelle publiée, dans la revue Fiction, dans le numéro de mai 68, comme on le sait bien, par hasard, mais c'est un heureux hasard, ça s'appelle La Réserve, et c'est l'histoire où on voit quelques personnes réduites à l'état sauvage courir sur le monde qui est devenu un immense désert parce qu'il a été détruit par la connerie humaine. Et puis voilà, puis j'ai continué, quoi, et à mes risques et périls d'ailleurs, parce que souvent ce que j'écrivais, et là Stéphanie a tout à fait raison, on me le renvoyait dans la figure, on me disait, mais voilà, que je suis pessimiste, qu'est-ce que... Alors j'avais une réponse toute prête, et je disais, mais non, je ne suis pas pessimiste. Pessimiste, c'est quoi? C'est une position philosophique. Moi, je suis lucide. Je je suis lucide parce que je m'appuie sur des faits, je m'appuie sur des chiffres, chiffres que tout le monde connaît, que tout le monde maintenant peut d'autant mieux connaître qu'à taper, qu'à aller sur des sites disponibles pour tous sur Internet. Donc voilà, que quand on connaît les faits, quand on connaît les chiffres, on ne peut pas écrire autre chose si on veut écrire sur le futur, le proche futur, le futur à moyen terme. On ne peut pas écrire sur autre chose que ce qui nous attend de manière, bien sûr, avec des marges, avec des oscillations, avec toutes les hésitations, les doutes qu'on peut avoir. On ne peut qu'écrire sur l'appauvrissement de la Terre, sur la disparition des ressources naturelles, sur la pollution, sur maintenant l'effet de serre, qui, rappelez-vous, il y a 10 ans, vous savez quoi, l'effet de serre. Puis après, ah oui, peut-être la température monte, mais on ne pensait pas du tout, on n'a absolument pas les preuves, que ce soit par la cause des activités humaines. Puis après, il faudrait revoir tous les éditoriaux des journaux télévisés ou radiophoniques pour voir l'extrême prudence, l'extrême lâcheté des commentateurs par rapport à l'effet de serre. Alors que maintenant, plus personne ne met ça en doute, quoi. Donc voilà, j'ai mon évolution qui a commencé tôt, peut-être, mais parce que je me suis informé ou j'ai été concerné, ou je me suis senti concerné un peu plus tôt que bien d'autres par les périls qui nous menaçaient, a fait que j'ai écrit presque toujours, que presque tout ce que j'ai écrit concerne la dégradation de la planète, la fin du monde programmée, plus ou moins douce, plus ou moins brutale, pris dans ses prémices, pris au milieu, pris à la fin, avec différents personnages, enfin voilà. Tout ça pour effectivement arriver à ce livre qui n'est pas, je dirais pas que c'est un testament quand même, parce que je ne suis pas encore tout à fait mort, mais en fait c'est un livre où je concrétise tout ce que j'ai pu écrire, puisque c'est, en fait ça regroupe à peu près 30 ans d'écriture de nouvelles qui ont été par la suite rassemblées, parfois réécrites, avec quelques textes inédits pour lier la sauce, qui représentent quand même 30 ans d'évolution de pensée et d'écriture. Voilà. On peut dire mon parcours en gros, on peut y revenir en détail, mais voilà.
Un parcours, ça donne une écriture. Je n'aurais jamais imaginé la fin du monde comme ça. Méfie-toi des apparences, jeune homme. Tu sais ce que disait Woody Allen ? L'éternité, c'est bien long, surtout au début. En ce qui concerne la fin du monde, c'est exactement l'inverse. Ce serait plutôt agréable au début. C'est après que ça se gâte. Et puis pourquoi parler de fin du monde ? La fin d'un monde, le nôtre. Est-ce qu'on doit vraiment le regretter ? À son tour, rencontrant le regard perplexe d'Antoine, Bastien obtura son clapet, mettant un terme à une logorée qui, selon son habitude, menaçait d'être interminable. « Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» grommela Bolon, reposant sur la banque une religieuse à peine entamée. « J'ai une idée, » claironna Laurence. Elle brandissait un chocolat moulé, en forme approximative de fauve, qui groupe en terre, qu'elle n'avait pas touché du bout des dents. « C'est quoi comme idée ?» prononcèrent en même temps les deux garçons. « On va délivrer les bêtes du zoo. » Le monde enfin, une fin du monde douce, quelque part, Jean-Pierre André.
Oui, tout à fait, parce que j'ai écrit beaucoup de fins du monde brutales, notamment causées par la guerre atomique, par une guerre nucléaire totale, ce qu'on craignait énormément pendant la guerre froide, dans les années 60, 70, déjà un peu moins dans les années 80. Et puis là, j'ai voulu écrire le thème du livre, ou en tout cas des diverses nouvelles qui composent ce livre. C'est une épidémie terminale, hein, la grande épidémie qu'on attend tous plus ou moins, qu'on craint, qui est peut-être pas probable, mais en tout cas qui est possible. Là, c'est plus ou moins un Ebola qui mute. Bon, il y a plusieurs vagues. Il y a des premières vagues d'extinction qui anéantissent la moitié de l'humanité. Une deuxième vague, le virus ayant muté, qui tue 9 personnes sur 10. Et puis une troisième vague qui tue quasiment tout le monde, puisqu'il ne reste que 3 couples à la fin. Donc, j'ai voulu faire ça de manière un petit peu douce, oui, esthétique si on veut, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau que des villes désertées, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que nos villes de verre et d'acier qui sont peu à peu envahies par la végétation, des arbres qui poussent, qui craquellent les murs, qui eux-mêmes s'effondrent, des palmiers qui poussent sur les toits, des chênes qui éventrent les maisons, et puis les animaux qui, en liberté, qui parcourent les rues, hein, ceux de des zoos qu'on a pu libérer, et puis ceux d'autres pays, d'autres continents qui sont libres de toutes les transhumances, maintenant qu'ils sont plus chassés, et donc qui envahissent le monde, qui envahissent le monde enfin, c'est le monde enfin retourné aux puissances sauvages de la nature, avec évidemment les animaux en liberté, parce que c'est vrai que moi, le monde animal a autant d'importance que le monde humain. Pour moi, même si ça peut en choquer certains, j'espère d'ailleurs que ça va vous choquer, la souffrance animale, la mort animale a autant d'importance que la mort d'un homme. Hein. Un petit chat qui meurt, pour moi, c'est comme un bébé qui meurt, parce qu'il souffre pareil, il a les mêmes nerfs, il a la même souffrance. Donc voilà, j'ai voulu faire une espèce d'ode à cette vie retrouvée qui est très naïve. Hein. Les animaux se battent entre eux, se mangent en eux, bien sûr, mais enfin, les hommes mangent beaucoup plus d'animaux que les animaux se mangent entre eux. J'avais les chiffres, mais je ne les ai plus en tête. C'est effarant le nombre d'animaux qui meurent. Plus d'un milliard, hein, beaucoup plus pour nourrir la population française en un an, quoi, par exemple. Les requins tuent, je crois, 10 personnes par an et on tue 200 millions de requins par an pour manger les ailerons et rejeter les corps à la mer, par exemple. Bon, ce sont des exemples. Hein. Neil Gaiman, un écrivain que j'aime beaucoup, a écrit dans un de ses romans, si les abattoirs avaient des murs de verre, tout le monde serait végétarien. Je crois que c'est vrai aussi. Donc voilà, tout ça, tout ce qui me dégoûte, quoi, les abattoirs, la chasse, machin, les massacres. Qui me révolte profondément, au fond que j'ai voulu écrire ce livre d'une fin du monde douce où l'homme enfin disparaît et laisse ses animaux en paix.
Et bien voilà, ça commence bien ce café littéraire sur les avenirs qui nous sont promis. En tout cas, le monde enfin est un très beau livre, même si on ne partage pas nécessairement toutes les opinions de Jean-Pierre Andrevon. En tout cas, la beauté est quelque part présente et c'est certainement une de ses plus belles réussites alors qu'il compte déjà beaucoup de beaux romans.
Allez, je peux ajouter juste que
ce
roman est venu, bien entendu, d'une imposition philosophique, écologique, etc. Mais ça vient aussi d'une imagination très enfantine ou des livres d'images que je pouvais lire enfant sur le paradis terrestre, par exemple, avec Adam et Ève couchés au milieu des biches qui elles-mêmes étaient couchées au milieu des tigres qui ne les mangeaient pas. Ça vient de mon amour. Ma passion pour le personnage de Tarzan qui vivait dans la jungle au milieu des animaux, ami des éléphants, ami des singes, etc. Voilà, ça vient aussi quand même de ces images idéalisées que j'ai absorbées dans mon enfance.
Je ne sais pas si les images dans votre enfance étaient idéalisées, mais en tout cas, on est un peu moins dans l'idéal. Dans donc l'or bleu, qui est paru au livre de poche, je précisais que Le Monde Enfin est paru au Fleuve Noir et était réédité chez Pocket. À la découverte de Paris, c'est le cinquième chapitre de ce roman pour Jeanne. Il y avait deux manières d'arriver dans la capitale de l'ancienne France. L'astroport Jules Verne pour les lignes interplanétaires et l'aéroport Rosny pour les communications intérieures à la Fédération. C'est là que Cosse et Bruce avaient atterri 2 heures plus tôt. Maintenant, accoudé à la fenêtre de sa chambre d'hôtel, le langrangien regardait des gamins en train de s'amuser avec un ballon dans la rue. Il plaignait ces petits Parisiens, obligé de supporter au moindre jeu la poussière ocre qui semblait caractéristique de Paris. Quel cri de joie aurait poussé ses enfants si, d'un coup de baguette magique, il avait pu leur apporter les pelouses d'un centre de parc de la Grange 4. Dire qu'il les trouvait mal aménagées. À aucun moment, au cours de son survol de la ville en aérotaxi, il n'avait vu un seul îlot de verdure. Le jeune homme était très surpris par l'omniprésence de la sécheresse ici. Elle se traduisait par une indescriptible saleté des rues. Un vent mauvais, chargé d'odeurs fétides dues à des tas d'ordures amassées à certains carrefours, balayait tous les quartiers, même ceux du centre, pourtant si célèbre autrefois. Qu'était donc devenue la ville-lumière dont il avait lu la description dans tant de livres ? C'est le lot de toutes les grandes villes, avait dit Cosse. Ici, l'eau est rationnée, les robinets ne coulent qu'une heure par jour, dans certains endroits. Ben c'est gai, dit-on, vous nous promettez, Daniel Martinigol.
Moi, j'ai été élevée dans un tout petit village de Bourgogne et j'ai découvert la même année la science-fiction et Paris. C'est-à-dire que j'avais 11 ans quand j'ai découvert les romans de science-fiction que lisait mon grand-père, bien cachés dans un meuble. Et lorsqu'il m'a surprise en train de lire ces romans, il m'a dit « c'est pas pour toi ça, c'est de la science-fiction, c'est pas pour les jeunes et surtout c'est pas pour les filles ». La même année, ma maîtresse de CM2, je pense que je devais être en CM2 ou en 6e, je ne sais plus, c'est peut-être un de mes profs, a organisé un voyage à Paris. Et pour moi, Paris, c'était aller dans une tellement grande ville que ça ne pouvait pas être humain. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai été sidérée par le nombre d'arbres que j'ai vus dans Paris. Ça paraît très surprenant, mais la petite fille que j'étais à garder le souvenir de Paris comme étant une ville où il y avait énormément de verdure. Et quand j'ai eu l'occasion, dans les années 80, de faire un voyage en Afrique et de découvrir, de toucher du doigt ce que pouvait être le manque d'eau, parce que j'ai eu l'occasion de monter jusque dans le nord de la Côte d'Ivoire avec une voiture, on était parti voir un parc animalier, enfin une réserve, et nous avons doublé deux petits garçons qui portaient deux énormes jerrycans d'eau. Donc on a pris les deux gamins et les deux jerrycans dans la voiture, on les a emmenés jusqu'au village où ils se rendaient, et on nous a expliqué là que ces gosses, qui avaient à peu près l'âge que j'avais à l'époque où j'ai découvert Paris, allaient chercher l'eau dans un village voisin parce que le puits du village était tari. Et donc je suis rentrée après ce voyage en Afrique absolument, choquée. Moi, il y a énormément de choses dans mes livres qui viennent de choses qui m'ont fait sortir de mes gonds, vraiment. Je suis arrivée en France, la première fois que je suis allée aux toilettes et que j'ai tiré la chasse d'eau, et que j'ai balancé 7 à 8 litres d'eau pure dans ma cuvette de WC, j'ai pris une grande claque dans la figure, et je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas ne pas alerter les jeunes sur le problème du manque d'eau. Et je me suis dit, comment faire? J'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait bien attirer l'attention des jeunes sur l'eau. Donc je me suis dit, mais la meilleure façon encore de procéder, c'est de la supprimer. C'est-à-dire, pas complètement, il fallait bien qu'il y ait un peu de vie encore sur Terre. Mais j'ai asséché carrément la mer Méditerranée, j'ai vidé la Seine, j'ai pollué les océans, j'y suis allée carrément, hein, j'ai pas hésité. Et puis, ça m'est venu tout naturellement de montrer Paris complètement asséché, avec ses ordures, avec la Seine dans laquelle on a mis des gradins, etc. Et surtout sans arbres, sans verdure, c'est ce que vous venez de dire. Une capitale de la France complètement sèche, vraiment. Alors que dans mon souvenir d'enfance, justement, c'était une ville qui m'avait quand même énormément surprise par le nombre d'arbres. Moi, je croyais qu'une ville, c'était que des maisons toutes tassées les unes contre les autres. Et quand j'ai vu les grands boulevards haussmanniens, les arbres, etc., les parcs, quand on nous a fait traverser le Luxembourg, je me suis dit, mais finalement, Paris, c'est pas du tout une ville qui est inhumaine. Enfin bon, j'avais trouvé ça du haut de ma petite gamine de 11 ans que j'étais, là, que c'était finalement particulièrement vivable. Et donc, quand j'ai voulu vraiment attirer l'attention de mes jeunes lecteurs, parce qu'il faut quand même préciser que j'étais déjà prof depuis une dizaine d'années, que tout au début de mon enseignement, je n'osais pas vraiment trop faire lire de la science-fiction à mes élèves. Enfin, j'aurais vraiment, de toute façon, eu le désaccord total de l'institution. C'était pas encore rentré dans les normes. Maintenant, quand j'interviens dans les écoles et que je vois des enfants qui lisent de la science-fiction, je leur dis, vous pouvez pas vous imaginer à quel point vous avez de la chance. Moi, j'aurais rêvé de faire ça à votre âge. Et donc, j'ai eu envie de commencer lentement, mais sûrement, à introduire de la science-fiction dans mon enseignement. J'ai trouvé des livres. Il y avait déjà des romanciers jeunesse qui avaient publié. Christian Grenier, Christian Lébrier avaient déjà des livres qui étaient lus dans les collèges. Mais bon, je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas en faire un, moi aussi. Je me suis lancé le défi et je me suis dit, eh bien voilà, je vais écrire un roman qui va parler de l'eau, qui va montrer comment la Méditerranée vidée, comment la France desséchée, ça peut être vraiment quelque chose de dramatique. Et alors je rejoins ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure. Moi, je n'ai jamais voulu être pessimiste dans mes livres. J'ai vraiment la sensation de vouloir tirer une sonnette d'alarme à temps. J'ai toujours dit, la science-fiction, c'est une littérature optimiste. Si elle ne croyait pas qu'elle peut changer un peu les choses, elle n'existerait pas, quelque part. Hein? Il y a quand même un appel en direction du lecteur pour lui faire prendre conscience que, surtout un jeune lecteur, que lui va peut-être pouvoir, ou elle, hein, parce que j'écris autant pour les garçons que pour les filles, qu'ils vont peut-être pouvoir changer les choses. C'est vraiment le fondement même du fait que j'écris pour la jeunesse. C'est en leur donnant l'impression que, en essayant de les convaincre, qu'ils pourront changer les choses. Voilà. Donc j'espère bien qu'on ne verra jamais Paris desséché.
À nouveau, notre vision des choses, un autre ton, notre écriture, avec vous, Philippe Mouche. J'attrape mon ardoise et appelle A.S. Je suis devenu quelqu'un d'impulsif, avide de réalité. Elle décroche à la deuxième sonnerie. « Salut Tristan, » dit-elle, comme si on se parlait tous les jours. « Je suis inquiet pour le chat, fais-je, il perd l'appétit. » Un silence inquiet me répond. A.S. n'aime pas le téléphone, qui l'oblige à prononcer un nombre de mots inhabituels. Je multiplie les affirmations fantaisistes à propos de la santé du sous-commandant. Elle lâche enfin « J'arrive » et raccroche. Une demi-heure plus tard, je l'aperçois se faufilant à travers la végétation. Difficile de savoir de quel quartier elle vient, elle a peut-être pris le tram. J'ai rencontré A.S. à cause des ordures. La grève du personnel de la filière déchets s'enlisait. Le conseil avait fait appel à une boîte de médiation créée par une troupe de théâtre expérimental vivant en communauté. Par nécessité, ils avaient mis au point des méthodes aptes à résoudre toutes sortes de conflits. Pendant les tables rondes, A.S. restait immobile, attirant tous les regards. Une tragédienne égarée dans un vaudeville. Quand le débat tournait court, elle lançait un mot unique qui résonnait dans le silence. Des négociateurs souriaient, d'autres haussaient les épaules, mais le thème était repris et la discussion repartait. Il a fallu 5 réunions et autant de mots pour sortir de la grève. Je me rappelle qu'elle était restée impassible quand son argent avait provoqué un fou rire autour de la table. A.S. entre sans frapper et cherche des yeux l'animal. Le sous-commandant se frotte aussitôt à ses mollets en ronnant de façon écœurante. Elle me lance un bref regard qui signifie « Il a l'air en parfaite santé, ce chat. C'est parce que tu es là, » dis-je. Alors, un personnage avec des initiales.
Oui,
alors A.S. est un des personnages, effectivement, de la place aux autres. Un des personnages peut-être le plus mystérieux, puisque elle est désignée par ses initiales, et on peut penser que c'est le narrateur qui utilise ses initiales, parce qu'il ne veut pas compromettre une personne qui existe réellement. Donc là, c'est au lecteur de décider ce qu'il en est. Il y a aussi un autre personnage qui apparaît dans l'extrait que vous avez vu, c'est celui du sous-commandant. Le sous-commandant est un chat. Donc on est, au départ, en plein dans une forme de banalité qui peut être transposable à pas mal de ce que des gens, des jeunes couples connaissent dans la ville, avec leurs problèmes de course, de nourrir le chat, des choses comme ça. Et puis petit à petit, on s'aperçoit qu'en fait, les choses sont... Comme souvent, quand on regarde longtemps quelque chose, on s'aperçoit qu'elle devient intéressante et originale. On s'aperçoit qu'en fait, ce chat est quand même assez bizarre. Et il y a un certain nombre de choses comme ça qui vont se cristalliser autour d'un certain nombre de personnages qui ne sont pas forcément ce qu'ils paraissent être. Au-delà de ça, l'idée, c'est vraiment parler de la ville. Je n'avais pas forcément envie, en faisant ce bouquin, de faire spécialement un bouquin de science-fiction. J'en profite d'ailleurs pour remercier vraiment très chaleureusement Imaginal et l'organisation du prix Une Autre Terre, pas seulement parce que c'est agréable de recevoir un prix, mais parce que, d'une certaine façon, je ne pensais pas du tout que ce livre puisse se retrouver ici, puisque la démarche au départ de science-fiction n'était pas celle que j'avais mise en avant, et que la science-fiction, elle était... un petit peu un outil, c'était un petit peu en cuisine plutôt qu'en vitrine. Et l'idée, c'était plutôt de trouver une distance, une forme de décalage, pour parler du présent. Et je trouve que la distance d'un futur proche, avec ce qu'elle peut impliquer d'inquiétude, mais aussi finalement d'espoir et parfois de loufoquerie, on peut se moquer aussi de son propre futur, ses propres interrogations sur le futur, c'est finalement ce que ça a pu donner. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi des événements au départ qui sont vraiment extraits de la banalité peut-être la plus étonnante pour montrer, enfin en tout cas pour suggérer, pour faire en sorte que le lecteur imagine plusieurs futurs possibles à partir des différents événements qui sont racontés. Et moi-même, je ne savais pas comment le roman se terminerait. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement quelques idées qui étaient là, mais ça tient aussi d'une forme d'expérimentation. Et pour parler plus précisément de ce qu'il y avait avant, je suis aussi assez content d'être avec des gens qui sont à des degrés divers vraiment intéressés par la réflexion sur le futur, aussi d'un point de vue environnemental au sens très très large. Dans ma chambre d'adolescent, il y avait un dessin de Jean-Pierre Revaux qui était affiché, que j'avais dû découper dans la gueule ouverte et qui représentait effectivement un arbre coupé. Et il y avait un inspecteur de police qui arrivait et qui disait « Je pense qu'il s'agit probablement d'un suicide ».
Et ça, voilà, je pense que ça a dû jouer, enfin, un certain nombre de choses comme ça, d'auteurs que j'ai lus, des auteurs anglo-saxons aussi, comme John Bronner, ou bien des gens qui commençaient vraiment à s'interroger sur, je dirais, l'humanité au sens large, pas seulement sur les ravages dont Jean-Pierre et Daniel ont parlé, mais aussi sur la vie en société, vraiment ce que ça peut devenir. Finalement, l'écologie au départ, c'est la science qui réunit les êtres vivants entre eux et avec leur milieu, mais les êtres vivants entre eux, ça inclut complètement l'espèce humaine. Donc c'est pas quelque chose qui est complètement séparé, et je pense que dans la science-fiction, on trouve cette interrogation, ce rapport-là, et du coup, c'est avec une certaine émotion que je me retrouve dans un festival de genre où, parmi les genres qui sont représentés, il y a aussi de la science-fiction, mais c'était pas du tout ce qui était prévu au départ. Je peux en dire un peu plus, mais voilà. Alors maintenant, pour revenir un petit peu sur Ah oui, si, il y a une chose assez amusante aussi que je signale au passage, c'est que donc je suis infographiste et journaliste de profession, et en fait, ma carrière, mon parcours professionnel, c'est déclenché aussi à partir de cette interrogation-là, puisque j'ai commencé à travailler dans le journal des Amis de la Terre qui s'appelait La Baleine, et après j'ai continué à La Gnome, donc le journal aussi où a travaillé Jean-Pierre, qui était, je pense dans ces différentes phases, mais en tout cas au début, sous-titré « Le journal qui annonce la fin du monde ». Ce qui me paraissait quand même un petit peu, voilà, c'était très provocateur, volontairement excessif. C'était destiné effectivement à attirer l'attention sur les dangers qui menacent. Mais personnellement, j'ai jamais été partisan, d'une certaine façon, de la peur comme moyen unique. C'est-à-dire que je pense qu'en ne faisant que peur, on s'en sort pas. Parce qu'effectivement, on provoque un certain nombre de crispations, on provoque aussi, pas forcément la circulation de l'information dans la bonne, partout dans les bons termes. Et d'ailleurs, comme on ne s'en sort pas, bien, effectivement, la Gueule Ouverte et d'autres journaux par la suite, comme Le Sauvage ou d'autres choses comme ça, n'ont pas fait que faire peur aux gens. Ils ont proposé des solutions. Je pense, mais dès le début, je pense à la chronique de Réserve sur l'énergie solaire ou sur ce genre de choses, où il y avait effectivement l'idée de proposer des solutions positives, et pas seulement d'être dans une espèce de refus, parce que refuser, c'est une chose importante, mais à un moment donné, il faut pouvoir faire aussi du concret, du positif, et proposer d'autres solutions. Donc c'est aussi par ce biais-là que je suis venu à d'autres collaborations, en particulier pour l'infographie, et après d'autres perspectives qui m'ont amené où je suis.
Si je puis me permettre, j'aurais une question sur votre ouvrage, enfin ce que j'en ai lu, puisque je n'ai pas eu le temps de le lire malheureusement, mais j'ai vu qu'il y avait ce que vous appelez le nuage dans cet ouvrage, et qui n'est pas vraiment une sorte de réseau Internet, qui est un peu autre chose. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus?
Alors, au moment où je l'ai écrit, c'était en 2008, hein, donc j'avais lu un article quelque part sur le cloud computing, dont on parle beaucoup plus maintenant, hein, et j'avais pas envie de faire quelque chose de trop technique là-dessus. L'idée, c'était de montrer qu'il y a quand même une révolution énorme que j'ai vécue aussi à titre professionnel, qui est cette capacité de mise en réseau à travers Internet d'un certain nombre de choses, alors positives et négatives, mais au niveau des connaissances, c'est quand même assez vertigineux, et en tant que journaliste, je m'en sers quand même pas mal. Et là, dans le livre, on est avec une version d'Internet qu'on pourrait peut-être appeler, je ne sais pas, 3.0, 4.0, ou plus que ça, qui s'appelle le nuage. Pour prendre une métaphore un petit peu graphique, pour la représenter, il faudrait imaginer que l'Internet actuel, c'est une espèce d'enveloppe 2D qui map la Terre, c'est-à-dire qu'on s'envoie tout un tas de messages, et puis ça trace une espèce de réseau maillé en fil d'araignée qui relie les gens. Et là, dans le nuage, il faut imaginer quelque chose en volume, dès qu'il y a plusieurs niveaux. Et il y a plusieurs niveaux, on peut imaginer que c'est parce que, tout simplement, l'extraordinaire augmentation exponentielle des échanges, des volumes d'informations est telle qu'il y a un risque de clash qui est gigantesque, qui peut carrément très gravement handicaper des économies de pays entiers, et que donc, on peut imaginer donc, que cet Internet a évolué avec une série de réseaux, et notamment des couches inférieures qui sont plus consacrées à des communications entre guillemets locales, en tout cas qui ne mettent pas en jeu le réseau national, et d'autres choses qui sont beaucoup plus globales. Ce qui fait qu'au final, dans la place aux autres, tous les échanges, pratiquement tous les échanges, qu'ils soient financiers, quand on paye au supermarché, quand on regarde un film, quand on téléphone à quelqu'un, quand on envoie un message, quand on échange, quand on lit une critique, quand on regarde un film, tout ça passe par le nuage. C'est une espèce d'extrapolation qui n'a aucune valeur prédictive, mais que j'imagine par rapport à la situation actuelle, des médias et des échanges.
Et est-ce qu'on arrive à faire passer des émotions et des affects aussi dans ce nuage, finalement ?
Oui, je pense que la réponse est vraiment clairement positive et esquissée dans le livre, d'autant plus que ça devient un espace en tant que tel. C'est-à-dire qu'actuellement, on imagine qu'on se connecte à un site, mais on continue à employer le mot de site. C'est-à-dire qu'on le projette virtuellement à un endroit donné, dans une carte mentale ou dans une carte géographique. Là, dans cette acception-là, on peut par exemple regarder un film, mais le film, il est sur le nuage. Par le jeu des copies, par le jeu des immenses données de sauvegarde, on ne peut pas l'attribuer à un espace particulier. Et c'est ce qui nous pendait, je pense, pour une partie des choses. Peut-être que ça prendra cette voie-là. Et du coup, ça peut, à la fois, alors ça présente un certain nombre de dangers assez importants, mais du coup, ça devient, dans la place aux autres, un deuxième espace. Ça devient une espèce de, la ville étant une métaphore de la société de frontières, ça devient une espèce de deuxième ville au-dessus ou à travers la première, dans laquelle des gens peuvent se réfugier, par exemple, dans laquelle il peut exister des gens qui ont des réflexions, des émotions. J'en dis pas plus, parce que ça, c'est plutôt vers la fin du livre. Et donc, il y a notamment une météo particulière. Je précise aussi que dans la météo réelle, dans la place aux autres, on est après une espèce de seuil de changement climatique qui fait que la météo est absolument imprévisible et qu'on ne sait pas, dans cette ville, le temps qu'il va faire le lendemain. Il peut faire entre 2 et 30 degrés, il y a des tornades possibles partout. Et une très belle soirée d'été peut succéder à une matinée d'hiver, comme ça se produit. Eh bien, dans le nuage, effectivement, il y a des orages de données. Il y a des campagnes virales, il y a des choses comme ça. Ça devient un espace en tant que tel, avec sa météo elle-même, et même avec son effet de serre numérique. Voilà, pour répondre un peu à...
Alors, pour en finir avec ça, moi, ce que ça m'a évoqué quand j'ai lu ce qui en était dit, justement, sur Internet, c'est un peu les boîtes à empathie de Philippe K. Dick dans « Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ?» où, en fait, là aussi, on se connecte à une sorte de réseau où finalement on arrive à partager essentiellement où on fusionne en fait.
C'est ce qui a été adapté au cinéma.
Absolument. Même si c'est pas du tout traité dans l'adaptation cinématographique, mais dans l'œuvre originale, c'est
pas tout à fait la même approche, puisque dans l'adaptation cinématographique, ils ont beaucoup individualisé la chose avec les personnalités des répliquants, en leur donnant des émotions. D'ailleurs, c'est très réussi dans le film. Hein, je pense que c'est un des intérêts du film. Mais effectivement, il y a cette idée-là, il y a cette idée qu'on peut avoir des véritables personnages qui sont dotés d'émotions et qui ne sont plus réductibles aux personnages biologiques humains. Mais ce n'est qu'un des aspects.
Trois visions, alors non pas d'une fin du monde, on a bien vu que c'était plutôt les fins d'un monde qui pouvaient se poser dans le livre de Philippe Mouche. Plus des fins du monde possibles ou déjà en train de s'accomplir dans le cas de Jean-Pierre Andrevon, une menace de fin du monde, en tout cas de fin du monde dans les cas de Damien Martinigolle. Et vous, quand même, face à cette inquiétude, est-ce que vous pouvez nous rassurer? On passera le 21 décembre 2012 et par contre, pour nous inquiéter quand même un peu, même si vous n'êtes pas tous, en tout cas pas Philippe Mouche, partisan de jouer uniquement sur la peur et l'inquiétude, qu'est-ce qui peut menacer réellement l'humanité?
Alors, d'abord, c'est vrai que j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. Alors, la bonne et la première, c'est qu'effectivement, a priori, le 21 décembre 2012, vous pouvez vous préparer, même si ça va désespérer M. Andrevon, à tuer beaucoup d'âmes, puisque finalement, il n'y aura pas beaucoup d'humains qui auront à souffrir de cette date fatidique. Ça, c'était la première bonne nouvelle, mais c'est à peu près la seule, finalement.
C'est la mauvaise pour les dindes.
C'est la mauvaise pour les dindes, voilà.
J'attendais la réponse.
J'aimerais revenir sur l'ouvrage de Daniel Martinigolle sur cette question de l'or bleu, en fait. Moi, j'ai pris conscience tout récemment de ce vocable, de la pertinence de ce vocable d'or bleu, en voyant une simulation de ce que représentait. Si on imaginait qu'on prenne toute l'eau qui se trouve à la surface de la Terre et qu'on la regroupe sous la forme d'une sphère, et que cette sphère, on la colle finalement à la Terre elle-même, complètement, la Terre asséchée. eh bien on se rend compte que c'est toute l'eau de la surface, et donc quasiment toute l'eau de la Terre, ça représente une sphère de 1000 km de diamètre à peine. Il faut rapporter aux 12 000 km, bientôt 13 000 km de la Terre. Donc c'est très peu de choses en réalité. Toute l'eau des océans, toute l'eau voilà, qui effectivement, pour nous en France, nous paraît être en abondance, eh bien c'est finalement très 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 peu de choses. Et on appelle la Terre la planète bleue parce qu'en surface, effectivement, elle est extrêmement hydratée, mais on se rend compte qu'il suffirait de peu de choses pour que finalement... Eh bien, justement, toute cette eau puisse se raréfier, en tout cas, soit beaucoup moins présente, y compris en France, pour être tout à fait égocentrique, je dirais. Alors, cela dit, les scénarios du futur qui nous permettraient de craindre une disparition totale de l'eau sont quand même à des échéances très, très lointaines. Alors, j'ai une autre bonne nouvelle qui est en fait paradoxale, c'est que finalement, la fin du monde, elle a déjà eu lieu. Lorsqu'on regarde l'histoire du vivant sur les 500 derniers millions d'années, on se rend compte que, par exemple, il y a 435 millions d'années, les quelques espèces qui étaient présentes sur Terre à ce moment-là ont disparu à 80%. Ça a recommencé une centaine de millions d'années après, et ça s'est produit, en fait, ces grandes crises biologiques pendant à 5 reprises. Pour les plus grandes, il y a eu des micro-crises biologiques, je dirais. Et la dernière, finalement, c'est celle qui a eu raison de nos amis les dinosaures, il y a 65 millions d'années. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre, même s'il n'y a pas de phénomène cataclysmique aussi violent que l'arrivée d'un astéroïde, hein, on pense que c'est ce qui a eu raison des dinosaures, eh bien, il y a un certain nombre d'auteurs, et là encore, je pense que M. Andrevon partage cette idée, qui nous explique qu'en fait, on est en train de vivre une grande crise biologique, mais... je dirais, au ralenti, hein, alors presque heureuse, je ne sais pas, mais en tout cas larvée, et que quand on voit le nombre d'espèces qui disparaissent, effectivement, on peut, je dirais, aller dans cette voie-là. Bon, alors, évidemment, en tant qu'humains, nous, on pourrait dire que ça nous concerne relativement peu, et de fait, nous sommes sans doute, par la réduction des espaces naturel que notre activité ou que notre simple présence occasionne, on est responsable finalement de cette crise biologique en cours qui va bien au-delà de ce qu'on pourrait appeler le jeu normal de l'évolution. Et cela dit, il est possible qu'à un moment ces évolutions finissent par nous rattraper. Je ne suis pas spécialiste de ces domaines en termes d'écologie, donc je ne m'y aventurerai pas. Mais dans cet ouvrage, donc 2012, et ensuite Scénario pour une fin du monde, avec mon co-auteur Fabrice Mottez, nous nous sommes finalement intéressés à ce qui pourrait représenter un danger sérieux pour l'espèce humaine à des échéances plus ou moins tardives. Et alors bon, je vous laisse éventuellement le découvrir dans l'ouvrage si vous voulez le savoir en détail, mais par exemple, ce dont on s'est rendu compte et qui nous a... on parle donc depuis qu'on a acquis la certitude que les dinosaures avaient fait une mauvaise rencontre avec un astéroïde, eh bien, c'est vrai que c'est un danger qu'on a présent à l'esprit quand on aborde ces questions. Mais bizarrement, en fait, l'événement catastrophique majeur le plus certain, je dirais, et quelque part le plus probable à une échéance de quelques dizaines de milliers d'années, c'est une éruption volcanique majeure. Alors, pas une éruption comme ce petit volcan islandais qui a empêché quelques avions de voler pendant quelques jours. Ça, c'est vraiment absolument rien. Mais des super volcans, en fait, hein, notamment le Krakatoa, enfin toute la ceinture de feu, et en particulier en Indonésie. Et j'en veux pour preuve qu'il y a déjà un volcan qui avait failli avoir raison de l'espèce humaine, mais il y a 73 000 ans. C'est un volcan qui... c'est un volcan dont le sommet, sur une longueur de 100 km par une largeur de 30 km, s'est entièrement volatilisé dans l'atmosphère. Et donc vous imaginez bien que des quantités faramineuses de poussière et aussi de gaz à effet de serre libérés lors de ce type d'épisode, ça a un impact planétaire. On crée ce qu'on va appeler un hiver volcanique sur le modèle de l'hiver nucléaire, c'est-à-dire que pendant des mois, on est dans la nuit ou la quasi-nuit, et évidemment, on coupe la chaîne alimentaire à la base. Donc, il faut savoir que nos descendants, s'ils arrivent, je dirais, à ne pas s'atomiser les uns les autres, et donc, finalement, si l'espèce humaine a un avenir, eh bien, il faut savoir que cet avenir sera à une échéance absolument certaine, mais encore difficile à préciser, confronté à des événements catastrophiques majeurs. Donc, je dirais qu'on peut rire des gens qui se préparent justement là pour tout de suite pour le 21 décembre 2012, et d'une certaine façon, on peut peut-être considérer qu'ils sont finalement en avance sur tout le monde. Mais ça, je, à la limite, j'ouvre le débat ici et je serais curieux d'avoir vos avis.
Un tout petit extrait encore, peut-être pour montrer. La tornade est née quelque part dans le Pacifique, non loin du 30e parallèle. Enfant tumultueux né de la rencontre d'une masse d'air froid tombée de la troposphère et de la surface trop chaude de l'océan, qui dépasse le fameux isotherme de 27,5 °C, le cyclone se présente sous la forme d'une chanterelle au long cou tordu et au vaste chapeau de guingois. Sa couleur hésite entre le gris-perle et l'un blanc d'œuf battu en neige. Il a pour l'instant 12 km de hauteur et ressemble de manière frappante à un champignon atomique dont il surpasse la puissance dévastatrice. Le champignon aussi tourne sur place à la manière d'une toupie prise de folie. À chaque tour, le pylône se gorge un peu plus d'eau, des milliards de litres d'eau en suspension qui viennent gonfler son jabot. Et toute cette flotte, il faudra bien qu'elle retombe. « Vas-y, vas-y !» exulte l'observateur en battant des mains. Le cyclone n'a pas besoin d'encouragement. Sa base environnée de nuages d'un noir d'encre de sèche que cisaillent sans cesse des éclairs violets. Il vient d'aborder la côte de la Louisiane, quelque part entre Dayton Beach et Jacksonville, ancienne concentration humaine qui en ont vu bien d'autres. Mais maintenant, il n'y a plus personne. Alors, pourquoi s'acharner encore? La longue rancune de Gaïa, sans doute. On a presque l'impression que vous l'appelez de vos voeux dans une misanthropie écologiste, Jean-Pierre Andrevon.
C'est de la littérature, tout ça.
On est rassuré.
Mais ce que je veux dire, ce que j'ai essayé de dire, c'est que la fin du monde, c'est pas quelque chose qu'on invente. La fin du monde arrive tous les jours pour des tas de gens. Je veux dire, on peut prendre l'exemple de Pompéi, par exemple, hein, où il y a eu 25 000 morts par l'éruption du Vésuve. Pour eux, c'était la fin du monde. Les gens sont morts, effectivement, d'une catastrophe qui est arrivée brutalement. Le tsunami d'il y a 5 ans, 250 000 morts, ça a été la fin du monde pour ces gens-là. Fukushima, pareil, c'était une fin du monde. Donc des petites fins du monde, des micro-fins du monde, mais quand même sérieuses, avec des éruptions de volcans, avec des tremblements de terre, il y en a tout le temps. Donc ça nous est facile, à nous, qui jusqu'à présent vivons dans un pays épargné, relativement épargné, assis devant son ordinateur, tranquillement le cul sur sa chaise, ça nous est très facile de décrire ça, en se disant que ça peut arriver, effectivement, à une échelle beaucoup plus grande, quoi. Mais c'est ni une fatalité, ni un souhait, je veux dire, c'est du domaine des possibilités, c'est tout, et des possibilités, il y en a des tas. La possibilité de l'astéroïde, elle est peu probable, mais elle existe néanmoins. Le volcan, ça existe néanmoins. Un gigantesque tremblement de terre qui libérerait la masse d'eau qui, paraît-il, souterraine et qui est plus importante que tous les océans du globe qui se trouvent sous la Mongolie, je ne sais pas. Ça peut nous submerger aussi. Je veux dire, des choses, des guerres, il y en a des tas. Donc, devant toutes ces menaces, contre lesquelles on peut rien ou pas grand chose, même si chacun d'entre nous, par des petits actes, hein, donc qu'on connaît tous, ne pas prendre sa voiture pour faire un kilomètre et y aller à pied, fermer son robinet quand on se brosse les dents, et mille autres choses, on peut les faire, bien sûr. C'est pas grand chose, ça sert quand même. Donc, on est entre ces deux possibilités, ces deux lames de la cisaille, quoi, où on fait rien, où on fait quelque chose, où il arrive quelque chose, où il arrive rien, où il arrive ceci, où il arrive autre chose. Donc tout est ouvert, tout est merveilleux, tout est effrayant, et on en fait de la littérature.
J'ai une bonne définition de son roman. Petit extrait. L'or bleu d'Anne Martinigol, pour encourager nos jeunes lecteurs. Les derniers rayons du soleil allumaient des reflets pourpres et orangés sur la baie de Naples dans le lointain. À leurs pieds, les anciens fonds marins, environ 200 mètres plus bas, étaient craquelés comme une terre de désert. Bérénice resta contre Bruce, glissant son bras autour de la taille du jeune homme. Ils se mirent à marcher le long de la terrasse. Dire qu'il y avait de l'eau, bleu, si bleu. Je l'ai vu dans tant de films. J'ai même tourné une vidéo avec reconstitution de la mer. Nous avons tourné en studio, dans un bateau qui tanguait sur des rails. Quand j'ai vu la version finale avec les vagues surajoutées, j'ai presque pleuré. C'est finalement aussi une sorte de fin du monde. Les mers vidées. Danielle Martinigol.
Oui, enfin du monde, oui, mais je m'amuse avec ça, d'une certaine façon, puisque j'ai fait une période poubelle aussi, pour essayer d'attirer l'attention sur l'accumulation des déchets.
Les oubliés de Vulcain.
Enfin, les oubliés de Vulcain. Enfin. J'ai du mal à expliquer quelle démarche je peux vraiment avoir, autre que d'attirer l'attention de mes jeunes lecteurs. C'est sûr et certain que on ne peut pas s'adresser à un enfant de collège comme on s'adresse à un adulte dans un roman pour adultes. Il est évident qu'ils sont déjà très très conscients des problèmes, hein. Il ne faut pas croire du tout qu'ils en sont ignorants. Il y a la fonction de distraction aussi de la lecture qui fait que j'essaie, dans la mesure du possible, de leur présenter des portes de sortie, enfin par l'intermédiaire de l'identification au héros qui va positivement réussir à faire quelque chose pour sortir un petit peu la terre ou la planète poubelle de l'ornière où les adultes ont mis tous ces jeunes qui sont là. Moi, mes personnages, ils ont au grand maximum 15-16 ans. Et si on veut que ces jeunes puissent effectivement avoir eux aussi une démarche de réflexion écologique, il ne faut pas non plus peut-être leur asséner trop de catastrophes sur la tête dans un roman pour eux. Mais ils sont conscients des problèmes, ils me disent, comme le disait Jean-Pierre, tous les petits gestes qu'ils font après avoir lu mes livres. J'en ai même un jour qui m'a dit: je me suis fait disputer par ma mère à cause de vous, parce que j'avais lu votre roman sur les déchets, et ma mère est entrée dans ma chambre juste au moment où je venais de retourner ma corbeille à papier au milieu de la moquette. Et je me suis fait copieusement disputer par maman, et il a dit: j'ai eu du mal à lui faire comprendre que j'étais juste en train de mettre en pratique ce que j'avais lu dans votre livre, c'est-à-dire de voir la masse de déchets que j'avais produit. Et j'ai trouvé ça très mignon parce que voilà, si un gamin a ce genre de réaction et m'a dit après, je me suis dit que je ferais mieux d'aller acheter mes stylos billes au petit bureau de tabac du coin où il y a quelques stylos qui sont posés en vrac dans un gobelet au lieu d'aller l'acheter dans une grande surface où il y a le carton, où il y a le plastique, où c'est accroché sur une tige métallique. Bon, ben, si un gosse réagit comme ça après avoir lu un de mes romans, moi quelque part, je me dis que j'ai réussi mon pari, à savoir attirer leur attention sur ce que pourrait être éventuellement le monde dans lequel ils vivront plus tard. Il leur appartient de le créer, cet avenir, il leur appartient de le gérer. Et c'est ce que je dis, on leur balance sur la tête énormément de cours d'instruction civique. Ça ne sert pas obligatoirement à bien grand-chose. Je sais, j'ai un mari qui est prof d'histoire géo et d'éducation civique. Et il se plaint beaucoup du peu d'attention de ses élèves dans cette partie-là de son enseignement. Mais si des enfants, en lisant un roman de science-fiction pour eux, s'éveillent petit à petit à une conscience justement civique et politique, disons les choses telles qu'elles sont aussi, s'ils se disent que le jour où ils auront la possibilité de mettre aussi, eux, un bulletin dans une urne et de penser que, bon, et ben, ma foi, il leur appartient d'agir sur leur avenir. Moi, j'ai gagné mon pari.
De très petits extraits, une question, et ensuite un petit travail en une minute à Didier Jamais. Embarras griffonne une adresse sur un papier molletant. C'est une planque sûre, dit-il. Des amis, vas-y de ma part, ils t'hébergeront le temps qu'il faudra. Le mot planque me fait tiquer. Je n'ai jamais cherché à savoir comment Embarras occuper ses journées, une indemnité accordée aux réfugiés climatiques n'est pas suffisante pour vivre. Et j'ignore ce qu'il peut gagner en jouant de la musique. Mais il ne fait qu'aucun doute que certains de ses visiteurs entretenaient avec la légalité des rapports distendus. Il me jette un de ces regards qu'on accorde aux débutants, où gravité et ironie se mêlent inextricablement. Je monte préparer les affaires. Et un tout petit peu plus loin. Je me déshabille entièrement, puis dispose sur la table des objets dont je vais avoir besoin. Mes chaussures de course les moins usées, une casquette sombre à longe visière, un foulard, un masque anti-pollution, une ceinture à poche dans laquelle je glisse des chaussettes de rechange, l'argent liquide que j'ai pu ramasser, etc. Vous avez remarqué, dopage d'intervalle, le masque anti-pollution, les réfugiés climatiques. Il y a plein de petites touches dans votre roman qui fait qu'au lieu d'asséner, vous glissez toute une série de petits détails imperceptibles qui, peu à peu, créent un univers qui n'est déjà plus tout à fait le nôtre.
Ça vient un peu avec ce qu'on a dit précédemment, ce qui a été dit par les intervenants, c'est-à-dire que il y a ces deux idées qui sont dans notre imaginaire très profondément. La fin du monde et la fin d'un monde. L'idée de catastrophe qui anéantit tout, elle trouve effectivement sa source dans ce que vous avez pu dire précédemment. Mais il y a aussi ces multiples changements qui viennent par nécessité, par capillarité, modifier notre quotidien. Ça se fait très vite, parce que des réfugiés climatiques, il y en a déjà pas mal. Parce que la mondialisation d'un certain nombre de choses, de tous les échanges financiers humains, crée des équilibres extrêmement profonds. Et en même temps, certaines de ces migrations sont faites pour compenser ces déséquilibres. Donc on est dans un monde qui, à mon sens, évolue très très vite. C'est ce que, je crois, disent une partie des gens qui essaient d'étudier ça, et qui disent qu'il y a effectivement une sorte d'accélération de l'histoire, dû aussi au fait de la multiplication des échanges, un certain nombre de technologies, ce genre de choses. Du coup, ça place la question de comment on fait pour décider notre avenir, ça la rend encore plus cruciale. Et il y a effectivement ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire les gestes que chacun peut faire avec sa conscience, avec la conscience qu'il a acquise dans son quotidien, d'une certaine façon, pour être un peu plus en accord avec cette conscience. Mais moi, j'insiste sur le fait que ça, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est effectivement très important dans l'économie éthique de la personne. Ça a aussi des conséquences globalement, parce que l'addition à un certain nombre de petits gestes peut faire aussi des différences, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que nous sommes une espèce collective, politique. On est segmenté en différentes nations qui ont des politiques, et que ces questions-là, moi, je trouve, avec un certain nombre de gens, qu'il y a un effet retard de prise en compte. On le voit bien sur la question du changement climatique. Toutes les conférences, Kyoto et autres, sont vraiment, on a vraiment à chaque fois l'impression qu'il y a du retard entre ce qui est programmé et ce qui serait souhaitable. Et ça, cette question, elle est assez largement partagée, même au-delà des clivages politiques traditionnels. Donc, d'une certaine façon, et c'est là où ça rejoint aussi certains thèmes de science-fiction, je trouve que l'espèce humaine, elle a inventé quelque chose qui serait une sorte d'ultime... peut-être pas d'ultime, mais en tout cas de nouvelle étape de son évolution, qui sera de jouer vraiment en collectif, et qu'on ait organisé la suite de tout un tas d'évolutions historiques, en groupe, en tribu, en famille, en nation, en un certain nombre de communautés comme ça, qui ont tendance un petit peu à se faire la concurrence, si ce n'est pas à s'exterminer les unes les autres. Maintenant, la question, c'est comment, par rapport, on a créé d'une certaine façon... un enjeu qui est planétaire par notre technologie, comment on le gère. Et la question de ce décalage, elle est effectivement centrale. Du coup, je crois qu'il y a une forme de nécessité de renouveau de l'approche politique qui ne peut plus être centrée au niveau du concept de nation. C'est pour ça que, dans ma place aux autres, j'ai volontairement gommé un petit peu l'idée de pays et de nation. Il y a la ville comme métaphore un petit peu d'une société globale, et puis c'est une ville-monde. Et il me semble que toutes les villes de taille importante sont un peu appelées à devenir des villes-monde. C'est une impression qu'on peut ressentir quand on va à Berlin, quand on va à New York, même quand on va à Paris. C'est-à-dire que voilà, les réfugiés vont arriver partout. Ils vont arriver partout, et spécialement à l'endroit où ils ont une chance de s'en sortir. Du coup, je pense qu'il faut qu'on pense vraiment nos organisations sociales de façon absolument différente. Une façon, je pense, importante et nécessaire, d'éviter ces multiples fins du monde que représentent les dommages qui sont peut-être en cours par rapport aux gens qui meurent de faim ou qui n'ont plus qui ne peuvent plus cultiver leur champ parce qu'il est submergé ou qui n'ont même plus l'endroit où aller.
Je crois qu'on a même dépassé l'horaire, mais bon, c'est aussi le bonheur qu'on peut avoir quand on est au-delà, quand on n'a pas un café qui arrive derrière, comme c'était un des derniers de la journée. Trois romans. L'or bleu, pour les jeunes lecteurs, de Daniel Martinigol. Le monde enfin, un des plus beaux romans, qui pourtant en écrit bien d'autres, de Jean-Pierre Andrevon, vraiment un beau livre que je vous recommande. Et puis bien sûr, le prix Une autre terre, Philippe Mouche, un roman qui démarre comme un roman de littérature générale, qui, par toutes petites touches, nous contamine et nous montre qu'en utilisant un style, une écriture, une façon d'être, en étant apparemment dans la blanche, en fait, il y a cette culture qui nous est commune de l'imaginaire et en particulier la science-fiction, et que c'est trop facile de lire un livre dickien, c'est très différent de Philip K. Dick, mais c'est vrai que dans cette façon de contaminer le réel, il y a quand même, je crois, une culture que nous partageons au-delà des étiquettes. Et pour finir, puisque vous l'avez remarqué, Didier Jamais va avoir un gage. Donc Didier Jamais, 2012 scénario pour le futur.
Pour une fin du monde.
Voilà, c'était le titre exact. 2012 scénario pour une fin du monde. Bonne démolition des idées millénaristes. Ça va être deux gages. Des idées millénaristes. Donc on va demander à Didier Jamais, en quelques dizaines de secondes, c'est ça le gage, de nous proposer trois scénarios pour une fin du monde. Il y a des écrivains qui sont là. Prenez quelques notes.
Alors, le premier scénario pour une fin du monde, en fait, c'est une petite histoire. Et qui va mettre en lumière les enjeux, finalement, que venait d'évoquer Philippe Mouche. C'est une planète qui se promène et puis qui rencontre une autre planète. Et donc, celle qu'elle rencontre lui dit « Oh, dis donc, mais t'as pas bonne mine, toi, aujourd'hui. » Alors, l'autre planète lui dit « Non, tu sais, je suis pas en forme, je suis embêté, j'ai attrapé l'homme. » Et l'autre planète lui répond « Oh, t'inquiète pas, ça passe tout seul. » Donc, voilà, donc c'est un des risques, finalement, de fin du monde, c'est la possibilité de... Finalement, que nous maîtrisions tellement mal notre développement technologique, qui est pourtant extrêmement raffiné aujourd'hui, pour être capable de nous entretuer ou simplement de nous tuer par accident, comme ce stupide et regrettable incident de Fukushima, où finalement, dans le pays qui avait pourtant reçu deux bombes atomiques, qui est dans la zone la plus sismique, parmi les plus sismiques qu'on puisse imaginer au monde, eh bien, on n'avait pas calculé des digues anti-tsunami ou des moyens de secours électrique suffisamment dimensionnés pour faire face à cet événement qui était pourtant hautement prévisible. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup marqué. Alors que je suis un technophile, hein, vraiment, la technologie, je lui reconnais plein d'avantages, mais là, franchement, ça m'a mis un coup au moral. Deuxième possibilité, je suis en train de viser relativement gaiement avec vous, et j'affirme que pour le 21 décembre 2012, il ne se passera rien. Et puis là, tout à l'heure, en entrant et en allumant mon ordinateur, je vais découvrir que des astronomes ont découvert une comète, comme on en découvre 10 à 30 par an, des nouvelles comètes qui arrivent de directions absolument imprévisibles, et que, contrairement à ce que je laissais espérer dans mon ouvrage, et bien finalement, il y aura bien un corps massif en trajectoire de collision avec notre planète pour le 21 décembre 2012. Alors là, je vous avoue que je serais extrêmement déçu parce que j'aurais perdu mon pari quelque part, et puis surtout, ça montrera que j'ai été bien présomptueux de dire que finalement, il n'y avait aucun risque et que peut-être dans certaines traditions millénaires, il y avait des fragments de vérité, mais je ne dirais pas vraiment ça, je dirais plutôt que ce risque de survenue d'un astéroïde ou d'un corps céleste massif, il est statistiquement, il nous paraît extrêmement faible, mais en réalité, je dirais que c'est une question qui mérite d'être évaluée tous les 6 mois, et en tout cas, c'est une question à laquelle il faut consacrer des moyens parce que plus on détectera ce genre de corps rapidement, plus on pourra imaginer des parades. Et enfin, troisième fin du monde possible, je dirais que c'est, comme je l'avais évoqué tout à l'heure, finalement la plus certaine, c'est-à-dire qu'un jour, nous aurons effectivement une remontée de panache magmatique, ça prendra un certain temps. On sait que ça s'est déjà produit, notamment il y a 250 millions d'années. C'est probablement un événement d'origine volcanique qui a provoqué cette colossale fin du monde il y a 250 millions d'années et ce réchauffement derrière tout à fait violent. Et ça, il faut le savoir, nos descendants, ils seront inéluctablement confrontés. Ils n'auront absolument aucune parade, hein, puisque à moins d'imaginer vraiment un développement technologique et la maîtrise d'énergie tout à fait considérable, mais quand on voit ce que l'homme fait d'énergie dès qu'il trouve le moyen je dirais, de la concentrer. Il en fait plutôt des armes, donc c'est vraiment à se demander si c'est souhaitable. Donc voilà, il y aura un jour une très belle, une magnifique éruption volcanique, qui d'ailleurs sera très jolie, puisqu'elle elle nous offrira des couchers de soleil absolument magnifiques, avec des projections de cendres, ce sera très très beau. Mais il faudra en profiter, parce que beaucoup de membres de l'espèce humaine ne verront pas le jour qui se lèvera au bout de quelques mois. Donc voilà, j'espère que ça ne vous désespère pas de vivre et d'entreprendre et justement de continuer à passer ce flambeau d'une génération à l'autre, parce que même si ça se finit mal, moi je trouve que la vie, c'est quand même la chose la plus formidable qu'on puisse espérer.
Alors, on a terminé sur quand même une phrase optimiste, c'était pas joué d'avance. Je vous rappelle, si vous voulez poursuivre la discussion et la réflexion avec Philippe Mouche, que nous le retrouverons demain midi, dimanche à 12h au Magic Mirror numéro 1. Ça n'est pas sur votre programme, tout simplement Philippe Mouche a eu le plaisir d'être lu par un producteur qui a bien l'intention d'adapter son roman. Et donc c'est cette discussion que nous aurons entre le producteur et Philippe Mouche autour de l'adaptation d'un roman au cinéma. Je crois que c'est aussi une réflexion intéressante qu'on n'a pas tous les jours l'occasion d'avoir aux Imaginales. Donc Magic Mirror, dimanche à midi. En attendant, si ce n'est pas tout à fait fermé, que nos libraires travaillent encore, peut-être quelques livres à signer dans les minutes qui suivent à la bulle du livre. Et sinon, bien sûr, à 10h demain matin, les festivités recommencent. Merci à vous.
Ils ont peur.
Non mais c'est bien parce qu'il y avait à la fois cette angoisse là et puis le désir de ne pas être trop négatif.
Oui, c'était un bon échange, je trouvais.
Heureusement je pars demain matin parce que sinon voilà.
Bon, c'est dégueulasse le point qui est la fin du monde là. C'est le jour de mon anniversaire. Je pensais terminer en beauté.
J'ai un autre anniversaire, c'est mon anniversaire de mariage en fait.
C'est aussi la fin du monde. Je suis marié.
Stéphanie,
je
suis marié. Déjà fait.
Ça parce que vous ne connaissez pas la femme.
C'est